Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio
écoutez
Omega.
Radio Omega.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue à cette édition chaude journée au Tchad. Plusieurs morts dont un journaliste dans des manifestations visant à dénoncer la prolongation de la transition. Transition justement cette fois au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est convoqué demain au Conseil constitutionnel. Insécurité dans le Boulgou, des individus armés non identifiés font irruption à Niagdem. Ce 20 octobre est célébré la journée nationale de la liberté de la presse. Comme invité, nous recevons Sadibou Marong. Il est le responsable du bureau Afrique subsaharienne, Reporters sans frontières. Et nous ouvrons cette édition par le Tchad, où des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre ce jeudi à N'Djamena, la capitale. Des centaines de personnes sur appel de l'opposition sont descendues dans la rue pour protester contre la prolongation de la transition de 2 ans. Des sources non officielles annoncent déjà plusieurs morts, dont un journaliste et de nombreux blessés parmi les manifestants. Selon RFI, le jeune journaliste tué par balle travaillait pour la radio à Seyfod. Le siège du parti de l'actuel Premier ministre a été vandalisé. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères français a condamné ces violences. Des violences sont survenues ce matin au Tchad, avec notamment l'utilisation d'armes létales contre les manifestants, ce que la France condamne. Les fausses informations sur une prétendue implication de la France n'ont aucun fondement, poursuit le communiqué du ministère des Affaires étrangères français. Le gouvernement tchadien, dans un communiqué hier, avait interdit cette manifestation de l'opposition qui vise, selon lui, à créer une insurrection populaire et armée avec l'appui des forces extérieures afin de déstabiliser le pays. En fin septembre, au terme du dialogue national inclusif, Mahamat Idriss Déby a été maintenu président jusqu'à des élections libres et démocratiques censées se tenir à l'issue d'une deuxième période de transition et auquel Mahamat Idriss Déby donc pourra se présenter. Et pendant que la transition semble dans l'impasse au Tchad, le capitaine Ibrahim Traoré prêtera pour sa part serment demain en qualité de président de la transition burkinabé. L'annonce a été faite hier par le Conseil constitutionnel qui dit avoir observé la vacance de pouvoir suite à la démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Et parlant justement du capitaine Ibrahim Traoré, selon le journal African Intelligence, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Emmanuela Claudia Del Rey, effectuera un déplacement à Ouagadougou afin de rencontrer dans les meilleurs délais les nouvelles autorités de la transition après le coup d'État du 30 septembre dernier. Emmanuela Claudia Del Rey pourrait rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré, a précisé notre confrère qui indique que la visite pourrait avoir lieu avant la fin du mois d'octobre. Africa Intelligence explique qu'alors que l'Union européenne avait trouvé en Damiba un partenaire jugé fiable, Bruxelles ne souhaite pas laisser transparaître un trop grand flottement dans son soutien à Ouagadougou afin de ne pas créer un terrain fertile pour Moscou. À en croire le journal, le Burkina Faso devait prochainement obtenir le déblocage d'une aide extra-budgétaire de l'Union européenne ainsi qu'un appui militaire financé via la Facilité européenne pour la paix. Tout au long du mois d'octobre, des missions techniques devaient rencontrer à Ouagadougou les autorités burkinabèm après le coup d'État du 30 septembre dernier. Ces déplacements ont tous été annulés. Les projets de soutien financier et militaire qui étaient dans les tuyaux ont également été mis en stand-by, a fait remarquer le journal. Et nous en venons donc à ces menaces à l'encontre d'Omega Media. Dans un communiqué rendu public hier, le groupe d'entre-relève Radio Omega informe les autorités, l'ensemble des organisations professionnelles de la presse et le public burkinabé de l'existence de plusieurs enregistrements audio dans lesquels les auteurs profèrent des menaces graves et directes à l'endroit de son personnel et contre ses locaux. Les auteurs menacent ouvertement de s'en prendre à l'intégrité physique et même à la vie du journaliste animateur Alain Alain pour ses propos tenus dans la rubrique « Le défouloir de Alain Alain » du 13 octobre dernier sur Radio Omega et Omega TV. Il menace aussi de s'en prendre à l'intégrité physique du promoteur d'Omega Media, Alpha Barry, et d'incendier les locaux du groupe, jugeant ces menaces suffisamment graves et attentatoires à la liberté d'expression chèrement acquise au Burkina et garantie par la loi fondamentale. Le groupe Omega Media a porté plainte hier contre X. L'affaire est donc maintenant entre les mains de la justice et naturellement Alain Traoré alias Alain peut compter sur l'entière solidarité de la rédaction de Omega Media face à ces personnes mal intentionnées. Dans le même registre, le ministère en charge de la communication a également donné de la voix dans un communiqué publié hier et dit avoir constaté sur les réseaux sociaux des messages audio appelant à porter atteinte à l'intégrité physique de certains hommes de médias, à leurs locaux et matériels de travail. Le ministère de la Communication dit condamner avec la dernière énergie ces actes d'intimidation qui ne sauraient avoir place au Burkina Faso. Le département a par ailleurs tenu à rappeler aux utilisateurs des réseaux sociaux que ces outils sont des facteurs de rapprochement encadrés par des textes et quiconque les transgresse s'expose à la rigueur de la loi. Des menaces qui sont survenues à quelques jours donc de la commémoration de la liberté. La commémoration, de la liberté de presse, donc au plan national. Et sur le sujet, nous vous invitons à aller à la découverte d'une lampe, symbole d'espérance, celle du Centre national de presse Norbert Zongo. Si vous vous êtes déjà posé la question, que peut-elle bien faire là ? Vous aurez plutôt la réponse dans ce reportage. Depuis le 3 mai 1999, elle est allumée et demande que justice soit faite sur la mort tragique du célèbre journaliste d'investigation burkinabé Norbert Zongo, assassiné en 1998. Pour mieux comprendre son histoire, Omega vous plonge ce jeudi donc à l'intérieur du Centre national de presse qui porte d'ailleurs le nom du journaliste. Le reportage est signé Moumouni Tambora.
Une lampe tempête pour exiger la lumière sur la mort tragique du journaliste Norbert Zongo. L'idée a de quoi interroger. À l'intérieur du verre rayonne une flamme dont l'histoire remonte au 3 mai 1999. Ce jour-là, le monde entier célébrait la Journée internationale de la liberté de la presse. Au Burkina, cela faisait près de 5 mois que la presse pleurait la disparition tragique du journaliste Norbert Zongo. Et cette flamme représente l'espoir de voir la lumière jaillir sur les circonstances de sa mort. Initialement, elle ne devait durer que 4 jours. Malheureusement, elle est restée allumée pendant ces 24 dernières années à cause d'un espoir jusqu'ici resté vain. Abdoulaye Diallo, coordonnateur du centre.
Puisque la commission d'enquête devait présenter son rapport sur l'enquête concernant l'assassinat de Norbert Zongo le 7 mai. Et donc nous on a allumé cette lampe là le 3 mai avec l'espoir que le 7 mai, quand la commission d'enquête va rendre ses résultats, on va éteindre la lampe parce que la lumière aurait été faite sur l'assassinat de Norbert Zongo. Donc initialement, elle était allumée pour durer 4 jours. Pour que le jour où la commission d'enquête indépendante rend son rapport, on allait avoir la lumière sur l'assassinat de Norbert Zongo et donc on éteignait la lampe. On organisait une cérémonie pour éteindre la lampe. Mais il se trouve que vous avez tout suivi, le rapport a été produit, mais le rapport n'a pas permis de faire la lumière sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Donc les journalistes ont décidé de garder cette lumière-là allumée. Donc cette lampe est allumée depuis le 3 mai 1999 pour montrer la volonté des journalistes, des hommes et femmes de médias que la justice soit rendue à Norbert Zongo.
Justice, liberté d'expression et d'opinion sont donc les raisons d'être de cette lampe. Elle souligne aussi les défis auxquels fait face la presse burkinabé. Mais au-delà du symbole, pour une lampe tempête, rester allumé durant 24 ans relève plus du mythe. Abdoulaye Diallo.
C'est pas de la magie. C'est une lampe, elle fonctionne, il faut la faire fonctionner. Quand la mèche finit, il faut changer. Quand le pétrole finit, il faut le remplacer. Il fut un moment où il y avait une crise, il n'y avait plus de pétrole. Et donc on a remplacé par une lampe solaire. Le temps qu'on a repris encore avec le pétrole, parce que l'idée, il faut que la flamme brûle pour montrer qu'on tient à ce que la lumière soit faite sur l'assassinat de Norbert Zongo.
La Journée nationale de la liberté de la presse est une initiative du journaliste Norbert Zongo, dont le centre de presse porte aujourd'hui le nom. Il était le conférencier de sa première édition le 20 octobre 1998. À travers cette lampe, le CNPNZ interpelle les professionnels des médias, les organisations de la société civile, les acteurs politiques ainsi que les institutions nationales sur l'impératif de renforcer la liberté de la presse et d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. En attendant, cette flamme restera allumée tout comme celle du combat pour la lumière dans le dossier Norbert Zongo.
Tout comme les menaces à l'endroit de Omega Media, le journaliste dont la plume dérangeait, les auteurs de multiples malversations avaient fait l'objet également de plusieurs menaces. Et toujours à l'occasion de la Journée nationale de la liberté de la presse, nous recevons pour vous comme invité Sadi Boumarang. Il est le responsable du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Interview à suivre en fin de journal. Et nous parlons insécurité à présent. Des individus armés non identifiés ont fait une incursion dans l'après-midi de lundi dernier à Niakdin, dans le centre-est, selon des informations concordantes parvenues à Omega Media. Les assaillants, selon les témoignages recueillis, sont arrivés dans le village aux environs de 17 hommes. Ils ont toujours, selon les sources, fait des prêches, effectué des tirs en l'air avant de se fondre dans la nature. Cette présence d'hommes armés dans cette localité de la province du Boulgou n'est pas un fait inédit. Le 12 janvier dernier, une quarantaine d'hommes armés avaient fait des prêches sur la place du marché de Niakdin, située sur la route nationale numéro 16. La localité de Niakdin est à 15 km de Bitou, sur l'axe Tinkodogo-Sinkansim, un axe stratégique majeur pour la mobilité et les échanges entre le Togo et le Burkina Faso qui semble être désormais dans le viseur des groupes armés.
La revue de presse.
Et nous retrouvons Asmaou Daou pour la revue de presse de ce jeudi 20 octobre.
Eh bien, on commence par ce qui marque l'actualité aujourd'hui 20 octobre, 24e journée nationale de la liberté de la presse. Le jeune confrère saisit cette occasion pour dire que les médias burkinabés mangent la vache enragée. Aujourd'hui, au Faso, fait trop fort quand même, mais il se justifie à travers des difficultés à joindre les deux bouts, la mort à petit feu des médias burkinabés, les trésoreries sont à sec, l'État, qui est le plus grand pourvoyeur des communiqués, abonnements et pubs, ne le fait plus ou peu et surtout honore ses factures difficilement, des factures revolving renvoyées aux exercices suivants. Et pendant ce temps, les impôts sont là, passage obligé, la subvention de l'État à la presse privée n'est que du saupoudrage, expose le journal. Et sur l'insécurité, l'Express du Faso signale qu'en attendant la stratégie sécuritaire, les terroristes envahissent. Poursuit-il, si on doit se souvenir qu'à sa prise de pouvoir, le capitaine et ses hommes avaient indiqué qu'ils avaient leur stratégie. Les Burkinabés attendent impatiemment qu'ils la déroulent afin de les rassurer que l'éléphant n'arrivera pas avec un pied cassé. En un mois, apprend-on, le nombre de personnes déplacées a augmenté de 11%, passant à plus d'1 700 000 âmes. Sur le report des activités socio-culturelles et économiques nationales, le quotidien estime que c'est une grande perte pour le Burkina et une aubaine pour certains pays. Pour le confrère, le pays, c'est la rançon de l'instabilité politique. Pour lui, le Burkina Faso perd ainsi des opportunités de vendre l'image d'un pays résilient et debout. Et hors de chez nous, Sidoya évoque d'éternels bruits de relations entre le Mali et l'ancienne puissance coloniale, la France, qui ont atteint un niveau de dégradation jamais égalé avec la dernière passe d'armes mardi dernier à l'ONU. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies Nicolas de Rivière se sont affrontés ouvertement, laissant transparaître une certaine animosité. Et du Mali, direction la Guinée, l'observateur parle à titre Yayi Boni en Guinée, le rendez-vous de la dernière chance. Il faudra bien que le président Mamadi Doumbouya fasse preuve de sagesse et de raison s'il ne veut pas que les sanctions de la CEDEAO tombent et viennent fragiliser davantage des populations déjà malmenées par la vie chère, pense le doyen des quotidiens.
Omega Sport.
À la suite d'Asmaou Daou, nous retrouvons Benabé Kabri cette fois pour le sport.
Bonjour et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Le dernier qualifié pour la phase de poule de la Ligue des champions africaine sera connu aujourd'hui. Ce sera entre l'AS Vita Club de la République démocratique du Congo et le Rai Club du Kadiogo, champion de Burkina Faso. Après le nul 0-0 à l'aller à Cotonou, les deux équipes livrent une dernière bataille cet après-midi à 14h30 au stade des Martyrs de Kinshasa pour une place en poule. Si le RCK se qualifie, il va intégrer la phase de groupe, ce qui sera une première pour un club burkinabé. En cas d'élimination, les hommes d'Amadou Sampo seront reversés en barrage de la Coupe de la Confédération où ils vont affronter le FC Saint-Éloi Lopopo, un autre club congolais. Et le deuxième tour éliminatoire aller de la CAN U23 se dispute le week-end prochain. Les Étalons se rendent au Bénin pour recevoir le Sénégal dimanche au Stade de l'Amitié. Le coach Brahma Traoré et son adjoint Drissa Kongo ont dévoilé une liste avec des renforts. Le gardien de but des A, Kylian Ikema, sociétaire de Den Haag aux Pays-Bas, a été convoqué, tout comme l'attaquant du Standard de Liège, Abdoul Faisal Tapsoba. Auto renfort, le milieu de terrain de Grenoble, Bachirou Nikema. Ces joueurs viennent renforcer les Étalons U23 qui se sont qualifiés pour le deuxième tour après avoir éliminé les Scorpions de la Gambie. La Coupe du Monde se jouera au Qatar à partir du 20 novembre et jusqu'au 18 décembre. Les équipes qualifiées seront bien servies. Dans les détails, chaque pays qualifié recevra 910 millions de francs CFA comme contribution à la préparation. Les pays qui seront éliminés en phase de poule recevront chacune 5,5 milliards de francs CFA. C'est 7 milliards de francs CFA pour une qualification en huitième de finale. Une place en quart de finale donne droit à 9,3 milliards de francs CFA. Le vainqueur de la Coupe du Monde touchera 23 milliards de francs CFA. Rappel des différents groupes. Pour sa première participation, le Qatar a hérité d'un groupe A composé du Sénégal, des Pays-Bas et de l'Équateur. Demi-finaliste du dernier mondial, l'Angleterre est dans un groupe B composé de l'Iran, du pays de Galles et des États-Unis. Considéré comme l'un des prétendants sérieux à la victoire finale, l'Argentine devra disposer du Mexique, de la Pologne et de l'Arabie Saoudite pour franchir le cap de la phase de poule. Champion du monde en titre, la France retrouve le Danemark, l'Australie et la Tunisie au premier tour. Allemagne-Espagne, c'est l'affiche de cette phase de poule. Les deux équipes devraient se battre pour la première place du groupe E. Le Japon et le Costa Rica tenteront de déjouer les pronostics. La Belgique se retrouve avec la Croatie, le Canada et le Maroc. Le Brésil part favori du groupe G, qui comprend la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Le Portugal, quant à lui, devra affronter le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud.
L'invité du jour. L'invité du jour.
C'est extrêmement important que les journalistes puissent avoir un peu le réflexe nécessaire pour se protéger en ligne, mais pour également se protéger sur le plan physique avec de petites formations. C'est ce que nous dit notre invité du jour, Sadibou Marong. Il est le responsable du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières, basé à Dakar, au Sénégal. Il s'exprime dans cette interview réalisée en marge de la Journée nationale de la liberté de la presse au Burkina Faso, commémoré donc aujourd'hui 20 octobre. Il est toujours au téléphone par Asmaou Daou.
Sadibou Marong, bonjour.
Bonjour.
Le 3 mai dernier, commémoration de la liberté de la presse à travers le monde, RSF, Reporters sans frontières, révélait que le Burkina Faso perd 4 places et est classé 41e sur 180 pays. Quels sont les facteurs qui expliquent cette régression?
Il y a l'indicateur, le contexte politique, le cadre légal, les contextes économiques ou socioculturels et même des questions de sécurité. Il y avait au moins 2 journalistes, dont un journaliste d'un média international qui avait été agressé. Il y a aussi cette incertitude liée au coup d'État. Mais il y avait surtout la mort de 2 journalistes espagnols et des reporters de guerre lors d'un reportage dans l'Est. Ça, c'était entre 2021 et 2022. Donc, il y a le contexte sécuritaire qui est très fragile, qui fait que l'accès à l'information, notamment dans les zones difficiles, qui est assez problématique aussi. Depuis le mois de mai, il y a eu 4 journalistes, dont même Nab Newton Ahmed Paris, Bessiri Ouattara, qui était correspondant de l'Express du Faso à Banfora, qui avait fait l'objet de menaces. Fanny Naro Cabré a été expulsée d'une réunion publique par un activiste Kémi Séba, les anciennes autorités militaires qui avaient des velléités de caporalisation du fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, qui est le régulateur des médias. Les radios communautaires ont été attaquées, des incertitudes, quoi.
Alors, à travers ces facteurs que vous énumériez, est-ce que le libre exercice de la profession de journaliste est une réalité au Burkina Faso?
Bon, si des journalistes, par exemple, à travers des réseaux sociaux sont menacés, on en a vu pas plus tard qu'aujourd'hui, on a vu que le groupe Omega, un journaliste du groupe Omega a été menacé de mort. On a également vu que le directeur général a été menacé de mort. Le groupe lui-même menacé d'être incendié, mais ça, ce sont des cas extrêmement graves qui n'existaient pas dans ce pays. Si bien qu'il faut les dénoncer de manière vigoureuse, le contexte souvent est assez compliqué, mais les régulateurs, on a vu que ça ne fonctionnait pas comme il le fallait. C'est des situations auxquelles il faut trouver des solutions immédiatement, et nous en appelons également aux autorités de transition pour que le Conseil supérieur de la communication puisse fonctionner normalement.
Avec cette montée de violence verbale et diverses menaces dont les journalistes font l'objet, que dit RSF?
Nous encourageons toujours, par exemple, les journalistes, à chaque fois qu'il y a des menaces, de porter plainte. Je pense que pour le cas du Burkina Faso, le problème ne se pose pas. Généralement, les associations fêtières dénoncent toutes ces menaces-là, mais que les autorités également ouvrent des enquêtes, comme c'est le cas récemment avec Newton Ahmed Barry, celui qui le menaçait a été identifié, après présenté devant un juge et condamné. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Après, ça va dissuader d'autres de pouvoir menacer les journalistes.
Justement, sur la menace de l'intégrité physique des journalistes et des organes de presse, des gens qui tapissent dans l'ombre, comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation et qu'est-ce que ces personnes recherchent finalement?
Il se pourrait qu'il y ait des puissances, disons entre guillemets, des puissances d'argent ou bien des puissances économiques ou bien même des puissances politiques qui pourraient être derrière ces menaces. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des menaces, il faut essayer de réfléchir pour voir qu'est-ce qui peut être derrière. Et il se peut que même que ça ne soit peut-être pas ces puissances-là ou bien ces lobbies, mais que ça soit juste un citoyen qui n'est peut-être pas content un peu de la manière ou bien d'une ligne éditoriale. Mais les lignes éditoriales généralement sont assumées. Maintenant, il est évident que c'est relativement nouveau d'après ce que nous observons, surtout dans le cas du Burkina Faso. Mais s'il n'y a pas que le Burkina Faso, il y a d'autres pays aujourd'hui où des journalistes sont pratiquement menacés. Il y a des menaces en ligne parce qu'ils lisent votre article de presse et après ils font des commentaires qui vous menacent directement. Ça pose fondamentalement la question de la sécurité des journalistes. Et quand on parle de sécurité, on ne parle pas de sécurité physique simplement. De plus en plus, il y a la sécurité physique, mais il y a aussi la sécurité digitale. C'est extrêmement important que les journalistes puissent avoir un peu les réflexes nécessaires pour se protéger online, comme on dit en ligne, mais pour également se protéger sur le plan physique avec de petites formations que les organes de presse doivent faire, avoir un peu des protocoles de sécurité dans les rédactions. Par exemple, en partant au travail, on évite certaines routines. Tous les jours, on passe par l'avenue Kwame Nkrumah, par exemple. Bon, peut-être aujourd'hui, je vais passer par une autre avenue, Wari Boumediene, des choses comme ça, pour ceux qui sont à Ouaga. Donc, il faut de plus en plus développer cela. Mais les lignes éditoriales sont des lignes assumées. Généralement, il y a ce qu'on appelle des clauses de conscience, qui font que pratiquement quand un journaliste ne se retrouve pas du point de vue de la ligne éditoriale de son média, il a la possibilité de partir, mais tout cela ne doit pas dévoyer la qualité du journalisme. Il faut rester journaliste et c'est extrêmement important. Et le journalisme, c'est celui qui va à la collecte de l'information, qui la traite de la manière la plus équilibrée, la plus indépendante et qui la diffuse à l'opinion. Et c'est cette opinion-là se fera son propre jugement, sa propre religion. Ça, c'est extrêmement important. Le journalisme en soi doit rester au Burkina, y compris partout dans le continent et dans le monde.
Merci Sadibou Marong.
Je vous remercie.
Voilà, vous l'aurez compris, ici donc s'achève cette édition à la technique Fidel Compaori pour le web Ibrahim Niaoni au micro Denis Zungranam. Le sort des doigts, c'est de vivre ensemble. C'est avec ce proverbe togolais donc que nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute des programmes de la radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.